RDC, Radiodiffusion Charentaise. Bienvenue pour Un moment avec. Salut, c'est Steph, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur RDC, Radiodiffusion Charentaise, 93.4 et 92.5. Ou sur le site www.radio-du6rdcfm.com. Salut, c'est Steph pour Un moment avec, l'émission qui parle de vous, l'émission qui parle de vous en musique, l'émission qui parle de vous en musique et en chanson. C'est sur RDC, Radio Diffusion Charentaise, 93.4 et 92.5, ou sur le site www.radio-du6rdcfm.com. Un moment avec. Salut, c'est Steph. Aujourd'hui, Un moment avec, c'est avec Jean-Luc Excousseau. Jean-Luc, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission et de partager un moment avec nous. Merci beaucoup d'avoir accepté un défi, celui de préparer cette émission un peu de temps après que notre invité initialement prévu a connu un empêchement qui l'a obligé à renoncer. Auditrice, auditeur, bonjour, merci de votre présence. Merci aux unes et aux uns de votre fidélité. Et bienvenue à celles et ceux qui découvrent aujourd'hui l'émission Un moment avec, habituellement diffusée le deuxième jeudi de chaque mois. Oui, je sais, ce 15 février est bien le troisième jeudi du mois, mais il y a des exceptions qui confirment la règle, et l'explication a été donnée tout à l'heure. Heureusement, sur RDC, on a de la ressource. Sur RDC 93.4 et 92.5 pour la région de Saintes, l'habitude est désormais ancrée. Nous nous retrouvons chaque mois pour passer un moment avec un invité, ou avec une invitée qui accepte de nous dévoiler son parcours de vie à travers des chansons. Nous nous retrouvons pour passer un bon moment par suite. C'est toujours avec un énorme plaisir que je découvre les témoignages de satisfaction reçus après chaque émission de la série Un moment avec. Bonjour Jean-Marc, merci aussi à toi de ton savoir-faire au service de la meilleure écoute des auditrices et des auditeurs, et merci encore de ton aide précieuse à l'animateur que je suis. Auditrice, auditeur, Jean-Luc Excousseau est l'invité de l'émission de ce jeudi 15 février, et nous allons sans doute, sans aucun doute, passer un très bon moment avec lui. Savez-vous, Jean-Luc, que quand on est convié à l'émission Un moment avec, on est soumis à la question dès le début de l'émission, ou plutôt, on est soumis à la chanson. Alors voici la question, et la réponse sera par une chanson, bien sûr, puisque c'est le principe de l'émission. Jean-Luc, quelle est la chanson qu'on fredonne, celle que vous fredonnez régulièrement, celle que vous allez fredonner pour nous ?
Bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, mon cher Stéphane, merci pour votre invitation. Je ne suis peut-être pas, c'est ce que je vous disais à l'instant, le meilleur invité, car je ne suis pas un grand écouteur, si je puis me permettre, un grand écouteur de chansons. Mais la chanson dont vous m'avez demandé de fredonner, et ce que je vais faire pour mon plus grand plaisir, et peut-être pour le déplaisir de certains...
Qui ne risque rien à rien, on verra.
C'est un air de Gluck, je vous le fais...
Oui.
Franco, bien allons-y. Avant de le lire, c'est
ouais.
J'ai perdu mon Eurydice.
J'ai perdu mon Eurydice, c'est extrait d'un opéra, voilà. Ça, c'est ça ?
C'est extrait d'un opéra de Gluck, ouais. Et je ne sais pourquoi. C'est ce que je fredonne sous la douche, et ça me vient de temps en temps, malgré le caractère plutôt tragique de la circonstance. Je me permets de le fredonner le plus souvent avec un grand sourire.
Alors voilà une des versions officielles, on va dire, donnée par Reinout van Mechelen et les Arts Florissants lors d'une répétition, c'est rare qu'on puisse entendre une répétition, à la Philharmonie de Paris. J'ai perdu mon Eurydice. Je suis comme un
quel supplice.
Alors j'ai perdu mon Eurydice grâce à Jean-Luc. C'est l'air qui a ouvert cette émission. C'est une œuvre emblématique de Christophe Willibald Gluck. Il s'agit d'un aria, un air, c'est-à-dire extrait de l'opéra Orphée et Eurydice, considéré comme un chef-d'œuvre à juste titre, hein, je crois. Mais un chef-d'œuvre tragique, vous le disiez, du répertoire lyrique. À l'époque, la tragédie lyrique était un genre populaire et c'était un mélange de musique et de drame. Et Gluck souhaita réformer cet art en le rendant plus naturel, je vais dire, plus émouvant. J'ai perdu mon Eurydice est l'un des arias les plus célèbres de l'opéra et il incarne parfaitement la nouvelle approche que Gluck voulait retenir. Grâce à vous, Jean-Luc, nous l'avons donc entendu par Reinhold von Mechelen, accompagné par les arts florissants, je le disais, mais ici, pas dirigé par le chef de chœur fondateur William Christie, mais par un autre, un collègue tout aussi talentueux, Paul Agnew. Orphée exprime ici son désespoir suite à la perte de sa bien-aimée. La mélodie est intense, émouvante, avec des montées et des descentes qui traduisent les tourments de l'âme. On peut aller jusque-là, je crois, vous serez d'accord.
Bien sûr, et merci pour le grand plaisir que me procure à chaque fois l'écoute de cette œuvre, et notamment dans cette version que je ne connaissais point, et je vous en remercie. Et cette perte que chante Orphée résonne peut-être aussi dans nos oreilles contemporaines avec le fameux et célèbre « c'était mieux avant ». Mais c'était bien mieux avant, effectivement, avant qu'il ne la perde par sa faute.
Parfois, on fait des choses et puis on les regrette, mais c'est trop tard. Hein. Ah là là, les paroles de l'aria sont en français et c'est une innovation pour l'époque car la plupart des opéras étaient chantés en italien. Cela permet au public de mieux comprendre et de mieux ressentir les émotions véhiculées, bien sûr, par la musique, puisque les paroles, dans la langue que tout le monde comprend, a priori en tout cas, sont associées. J'ai perdu mon Eurydice, c'est au final une chanson d'amour tragique dans laquelle Orphée, vous le disiez, Jean-Luc, exprime sa douleur suite à la mort de sa femme Eurydice. Le personnage d'Orphée est pourtant un musicien talentueux, capable de charmer les dieux avec sa musique. Et sa quête pour ramener Eurydice des enfers est un parfait symbole, il me semble, de l'amour éternel et de la lutte contre la mort, contre la séparation. On ne peut ici oublier omettre une référence à Offenbach, qui sur le même sujet composa Orphée aux enfers, mais avec une autre esthétique musicale, dont un célèbre cancan, encore maintes fois joué de nos jours, je veux parler du galop infernal. Jean-Luc, l'amour est toujours vainqueur, finalement, c'est ça le message que vous voulez nous délivrer avec cette magnifique chanson?
Oui, c'est possible, et puis surtout ce que je souhaite, c'est procurer du bonheur donc aux auditrices et aux auditeurs. Et sachant que vous avez rappelé que Orphée charmait les dieux, il faut savoir qu'il a charmé, il charmait aussi les humains, il charmait aussi les arbres, toute la nature, et les humains et les monstres. Et je souhaite, s'il y en a parmi nos auditrices et auditeurs, que les monstres qui sommeillent en nous aient tous été charmés par cet aria.
Quelle belle entrée en matière pour un moment partagé sur RDC 93.4 et 92.5. Jean-Luc, sur les ondes de RDC, êtes-vous prêt à passer un moment avec les auditrices et les auditeurs?
Bien entendu.
Alors voici un moment avec Jean-Luc Excousseau.
Salut, c'est Steph, un moment avec.
Jean-Luc Excousseau est avec nous. Jean-Luc, qui êtes-vous?
Je suis moi, si je puis me permettre.
C'est déjà beaucoup, si, c'est ça?
Si vous souhaitez très rapidement que
oui,
je...
Bon, dites-nous.
Si je suis votre invité, je suppose que c'est actuellement en tant que président du conseil d'administration de la Mutualité française de Charente. Donc après un parcours assez long, on s'en rendra compte au vu et à l'écoute des chansons que j'ai choisies, puisqu'on verra qu'effectivement, je suis né il y a déjà quelques années. Si mes souvenirs sont encore exacts, c'est en 1954. Mais je n'ai point connu Gluck, rassurez-vous. Ni Bach, ni tous ces gens que j'adore. Bon, donc j'ai commencé, si vous voulez, une sorte d'historique de mon parcours. J'ai commencé ma carrière en tant qu'instituteur. Que j'ai beaucoup aimé, qui m'a comblé pendant une petite vingtaine d'années. Et puis, un jour, on peut le dire, je me suis ennuyé. Et ce jour-là, j'ai décidé de bifurquer. Donc tout en gardant des liens avec l'éducation nationale et l'enseignement, puisque L'enseignement est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur.
En fait, vous avez éviter une routine, peut-être, voilà. C'est ça ?
Je me suis rapproché du monde de la santé, oui, parce que cette routine-là, que je commençais à sentir, je me suis aperçu qu'autour de moi, beaucoup la ressentaient vivement, et dans leur tête et dans leur corps. Et donc, je n'ai point voulu ça. Donc, pour éviter cette routine, je me suis tourné davantage vers le monde de la santé. Et donc, je suis devenu gestionnaire de centres de soins et de santé pour les enfants, en difficulté, en grande difficulté, voire en difficulté moins importante.
Toujours en lien avec l'instruction, l'éducation, etc.
Et toujours en lien avec l'éducation, ce qui fait que bon, ma carrière professionnelle, puisque je suis en retraite, peut se résumer par deux verbes, finalement, qui sont enseigner et soigner. Ce qui correspond bien, finalement, à quelque chose de profond chez moi, je pense, dans mon envie d'empathie, d'aide de l'autre et en même temps de réalisation personnelle.
Peut-être que l'un peut servir l'autre. Parfois, il peut arriver qu'on enseigne et qu'on soigne par conséquent.
J'ai la faiblesse de croire que c'est possible, de croire que l'enseignement peut quelque part participer à une thérapie sans mettre un grand T à thérapie. Oui. Participer aux soins en général.
Au meilleur être.
Comme aurait dit notre ami Martine Aubry, au care. Puisque elle avait coutume d'employer, quand elle était ministre, ce terme anglais. Elle le prononçait avec un accent un peu plus ch'ti que moi, d'ailleurs.
Et c'était de l'anglais du Sud, alors, puisque c'était du nord de la France.
Exactement.
Alors, vous disiez que vous aviez été instituteur. C'est un mot qui n'existe plus maintenant, en tout cas, par rapport à la profession. C'est devenu professeur des écoles. Mais je connais plusieurs personnes qui ont été instituteurs. Et je vais vous demander, quelle chanson pourrait être associée à votre profession, en tout cas la première, instituteur.
Alors, on va être un peu plus ludique qu'on ne l'a été lors du premier choix. Et ce que j'ai choisi, c'est ce que finalement, c'est le titre qui me plaît bien, et puis le renvoie à une période où j'étais enfant, ou une période qui était une belle période pour moi. Et donc, j'ai choisi L'école est finie, donc ce qui est complètement différent de mon premier choix.
Encore que L'école est finie, ça veut dire qu'on passe à autre chose.
Exactement.
C'est la version de Sheila, hein, je crois qu'on va entendre. Oui. L'école est finie.
Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie là où est à nous que la joie vienne. Mais oui, l'école est finie. Nous irons danser ce soir peut-être, ou bien chahuter tous entre amis. Bien que d'y penser, j'en perds la tête. Mais oui, l'école.
Alors je ne sais pas si vous l'avez repéré, Jean-Luc, mais nous venons d'entendre le son du scopitone.
Alors, j'allais en parler. J'allais évoquer donc des souvenirs d'enfance à ce sujet.
Allez.
Et quand j'étais enfant, nous allions régulièrement avec mes parents à Royan, donc belle cité balnéaire. Et pour ceux qui connaissent Royan, face au front de mer, il y a une sorte de galerie. Et à l'époque, donc dans cette galerie, cette galerie était ponctuée par des scopitones quand nous faisions une sorte de promenade. Alors c'était pas la promenade initiatique dans un cloître, hein, ouais. Mais ça ressemble un peu à ça.
Alors
pour
ce
moi.
Scopitone, finalement, c'est une sorte de jukebox, c'est ça ?
Et on
mais
voyait,
qui associe
donc,
l'image.
On voyait les écrans, ouais. Couleurs, mmh. Ce qui était à l'époque un peu révolutionnaire, associé au son. Donc c'était des sortes de téléviseurs sur pied en réalité. Ouais. Mais c'est vraiment, c'est amusant que vous en parliez, parce que c'est vraiment en référence au scopitone aussi. Donc l'école est finie, bien sûr, parce qu'on a évoqué une période de ma vie qui est terminée, mais aussi cette balade au sein des scopitones dont l'école est finie,
qui était diffusée largement. Et on avait des scopitones aussi dans des frairies, comme on dit, ouais. En Charente. des fêtes foraines. Il faut que je vous dise, auditrices, auditeurs, que dimanche soir, je n'avais plus de voix et que la voix n'est pas encore bien revenue. Mais pourtant, je ne me suis pas résolu à ne pas profiter de votre présence aujourd'hui sur RDC pour accueillir Jean-Luc Excousseau. L'école est finie, savez-vous, Jean-Luc, que c'est aussi une comédie?
Et non.
Voici un résumé de l'histoire. Agathe Langlois, parisienne, vient d'apprendre sa titularisation comme professeur d'anglais. On reste dans le monde de l'école, évidemment. Avec l'espoir d'être nommée à Paris, elle a hâte de connaître son lieu d'affectation. Et elle se retrouve dans un collège de campagne, dans le village imaginaire de Trouilly-sur-Selle. Logée par un couple pour le moins original, Gilbert et Simone, qui lui proposent une chambre sous les combles, elle s'aperçoit que ses nouveaux collègues sont particulièrement turbulents et elle s'attire le mépris des collègues avec des élèves encore plus turbulents que les collègues. Agathe doit s'adapter à ce nouvel environnement qui ne ressemble en rien à ce qu'elle espérait. L'école est finie, la chanson de Sheila qu'on vient d'entendre, on fait un extrait, et le générique du début de cette comédie. L'école est finie, c'est aussi un documentaire de Julie Chauvin, qui donne la parole à 5 institutrices, on revient au terme, hein, Jean-Luc, vous avez été instituteur, nous le disiez-vous tout à l'heure, certaines également directrices. Elle se livre avec une franchise et un recul qui forcent l'admiration, et l'annonce du documentaire, qu'on ne sortira pas indemne de regarder ce document très très important, qu'on soit enseignant ou qu'on ait été élève. Alors Jean-Luc, si devenir maîtresse ou maître d'école est le rêve de nombreux d'enfants, le métier d'enseignant ne serait pas le plus beau du monde, malgré le titre du célèbre film?
Je pense qu'il le fut, qu'il l'est moins, et qu'il le redeviendra peut-être.
L'école est finie, nous le disions tout à l'heure, c'est bien sûr et peut-être d'abord la chanson de Sheila, vous serez d'accord. On peut dire que c'est une chanson qui a vraiment lancé sa carrière, c'est son premier véritable tube, le titre, qui va lui permettre d'acquérir une immense notoriété. Je me rappelle, raconte Sheila, sur sa notoriété soudaine, que j'ai pris le métro avec ma première couverture de magazine à côté de moi. J'étais assise dans la rame avec la une du journal bien en évidence et les gens ne faisaient pas le lien entre la photo et moi. Après l'école est finie, je ne pouvais plus descendre de chez moi pour acheter une baguette de pain et même les gens dormaient sur mon paillasson. Pour vous, Jean-Luc, l'heure de la sortie a sonné au moment de la retraite, c'est ça?
C'est ça, donc personne n'a dormi sur mon paillasson depuis, je ne pense pas. Hein,
c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, bien sûr, car vous êtes un jeune retraité dynamique, je le vois, et avec les auditrices et les auditeurs de RDC 93.4, 92.5, je l'entends. Avant d'être retraité, il s'en est passé des choses dans votre parcours, je me doute en tout cas.
Oui, ouais, donc c'est vrai que dans le monde du soin, donc j'ai assumé la direction d'un petit établissement dans la campagne charentaise, dans lequel on soignait donc les enfants atteints de
troubles de la conduite
du comportement. Et j'y pensais quand tu parlais de Trouilly-sur-Selle, et non, et je ne veux surtout pas comparer Douza avec Trouilly-sur-Selle, mais ce fut un beau moment de ma carrière avec de très belles rencontres.
On va remonter, si vous le voulez bien, encore avant, jusqu'à l'enfance. Est-ce qu'il y a une chanson qui peut illustrer un moment de votre enfance? Laquelle et pourquoi?
Alors, je n'ai eu aucun mal à trouver cette chanson, puisque c'est un souvenir très ancien qui, je devais avoir, je dirais, 4 à 5 ans. Donc ma mère avait acheté un électrophone, alors je ne sais plus exactement ce que c'était, et donc pour montrer le progrès à mes grands-parents qui habitaient la campagne profonde du sud Charente, elle avait amené cet électrophone qu'elle avait posé sur l'imposant bahut qui était d'ailleurs le seul meuble
c'était un tépaz,
de la cuisine.
Un tépaz, non, peut-être,
c'était possiblement un tépaz. Et donc elle avait posé le bras de l'électrophone sur cette espèce de disque noir qui tournait, c'était un 45 tours, et c'est la première chanson que j'ai entendue sur un électrophone, j'en suis certain, hors certains 78 tours dans d'autres circonstances, et avec, là c'était plus de la chanson.
Et dans cette chanson, c'est
chanson-là. Et c'était donc un tout petit bikini chanté par Dalida.
Alors voici le son du premier disque. Et vous le disiez, il n'est pas question de Scopitone ici, mais du souvenir ému des 45 tours et de leurs cousins, les 33 tours. Ne remontons pas jusqu'aux 78 tours. Un tout petit bikini de Dalida.
Sur une plage, il y avait une belle fille qui avait peur d'aller prendre son bain. Elle craignait de quitter sa cabine. Elle tremblait de montrer au voisin. Un, deux, trois, elle tremblait de montrer quoi? Son petit ici, 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 oui.
Alors, Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polkadot Bikini, en fait c'est le titre d'origine, c'est une chanson fantaisiste américaine qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui n'ose se montrer à la plage dans son nouveau bikini. Elle a été écrite par Paul Vance et Lee Pocris, elle a été interprétée par Brian Hyland accompagné d'un orchestre dirigé à l'époque par John Dixon. Et ça constitue, cette chanson-là, un jalon dans l'évolution des mentalités américaines, notamment parce que si à l'époque le port du bikini n'était plus une controverse en Europe, aux États-Unis il en allait tout autrement. En traitant la question sur un mode humoristique, sur un mode souriant et en faisant appel à un chanteur adolescent, donc Brian Allen, qui n'avait que 16 ans, cette chanson a contribué à désamorcer les contestations et à rendre acceptable le bikini sur les plages américaines. Vous voyez, la musique peut révolutionner les mœurs. Hein. La chanson comporte trois couplets. La jeune fille dans le premier n'ose quitter la cabine où elle vient de revêtir son bikini. Elle se rend à la plage mais reste assise sur le sable enveloppée dans une couverture ou dans une serviette de bain. Elle se baigne finalement dans la mer, mais craint d'en ressortir et reste immergée dans l'eau, même si, avec le froid de la mer, elle vire un peu au bleu, la pauvre. André Salvé et Lucien Maurice écrivent pour Dalida une version française, et cette version sera intitulée « Quand c'est Dalida qui la chantera, Itsy Bitsy, petit bikini ». Mais une autre version, c'est celle de Johnny Hallyday, qui sort quelques temps après. Et cette concurrence n'est absolument pas du goût de Lucien Maurice, hein, lui qui avait écrit la version française et qui était le compagnon de Dalida et le directeur des programmes d'Europe numéro 1. Alors dans une émission qu'il animait, le Disco Ball, il casse en direct le disque de Johnny Hallyday en déclarant « C'est la dernière fois que vous l'entendez ». Richard Anthony a chanté aussi le petit bikini. Lynn Renaud, Katia Valère, Ginette Garcin, Alice Donna, l'accordéoniste aimable, dans une version instrumentale bien sûr, et d'autres encore. Malgré de très nombreuses interprétations, c'est la version de Dalida qui restera à la première place en France et ailleurs, notamment en Belgique et au Québec. Des spécialistes pourtant s'accordent pour dire que la version française la plus réussie serait, je vais rester prudent, celle de Dario Moreno. Et puis, une chanson, ça peut devenir un tube, quel que soit finalement celui ou celle qui la chante parfois, et des reprises peuvent devenir des tubes, avec l'exemple de Dario Moreno que je viens d'évoquer. Et il y a aussi des reprises qu'on n'attend pas. Alors voici une reprise de Itsy, Biki, Witty, Biki, Bi, un tout petit bikini, ça y est, je vais y arriver. Voilà, c'est une version, vous l'aurez entendu, auditrice auditeur, interprétée par une chorale, parce qu'il arrive que des arrangements soient écrits pour des chœurs, ici un chœur accompagné. Alors après l'enfance, Jean-Luc, évoquons évidemment le Jean-Luc Excousseau, adolescent. Souvenir d'adolescence, ça vous parle, ça? Quelle chanson pourrait illustrer un moment de votre adolescence?
Alors, c'est l'époque où, avec pas mal de camarades, mâles de ma classe d'âge, nous pensions que la séduction auprès des jeunes filles passait par la danse qu'on appelait le slow, qui existe encore. Donc dans les booms, aussi dans certains bals, hein, bien sûr. Et donc nous pensions que finalement une des meilleures approches pour séduire, c'était le slow. Bon, bien que nous ayons tous été imprégnés par le fameux sketch de Guy Bedos et de Sophie Daumier, qui nous montrait un petit peu l'envers, la drague, qui nous montrait un petit peu l'envers du slow, et notamment vu par les jeunes filles. Et donc, le slow auquel j'ai pensé, c'est Since I've Been Loving You, par Led Zeppelin, que nous écoutions régulièrement, longtemps, et avec le potentiomètre volume assez fort.
Assez fort. Et il y avait, je crois, à cette époque-là, des moments qu'on appelait le quart d'heure américain, où c'est les filles qui, ou les femmes qui invitaient.
Exactement.
Les garçons ou les hommes, bien sûr. Alors voici de Led Zeppelin, auditrice, auditeur, si vous voulez commencer à constituer une collection de musique pour danser le slow, c'est maintenant avec Since I Have Been Loving You. Jean-Luc, vous, je ne sais pas, mais moi, il y a plein d'images qui me sont revenues d'il y a quelques... Allez, on va oser le dire, quelques dizaines d'années déjà.
Quelques années.
Ouais, d'accord. On est toujours plus âgé ou plus jeune que quelqu'un, n'est-ce pas? Alors, c'est une chanson du groupe britannique Led Zeppelin, vous le disiez, Jean-Luc, écrite par Jimmy Page, Robert Plant et John Paul Jones, et elle figure sur le troisième album du groupe, ainsi que plus tard sur les albums live, en direct, The Song Remains the Same and How the West Was Won. Jimmy Page enregistre en une seule prise le solo de guitare, alors celui-ci, et puis celui-ci qui advient plus tard. Et Terry Manning, l'ingénieur du son, dit que ce serait le meilleur solo de guitare de tous les temps. La chanson est à nouveau interprétée lors de la réunification de Jimmy Page et de Robert Plant, qui se sont un peu éloignés à un moment de leur vie. Et sur un album, elle est à nouveau présente. L'album s'appelle No Carter, Jimmy Page and Robert Plant Unleaded. La chanson, c'est un blues finalement, c'est un blues lent. Alors si on monte un tout petit peu dans la technique, c'est dans une gamme mineure, c'est Do mineur. Et puis elle associe une progression mineure en 12 mesures, pardon, qu'on appelle le Quick Change. Il s'agit d'une succession d'accords. Tiens, je vais vous les donner. Do, 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 fa, fa, do, do, sol, fa, do, sol. Voilà, c'est une grille habituelle d'accords de blues. Et c'est repris dans nombre de chansons françaises, étrangères, que ce soit anglaises, d'Amérique du Sud, de tous les continents, sur tous les tempos, dans toutes les tonalités, et dans tous les modes aussi, parce que là, je voulais parler du mode de do, mais on peut évidemment changer de mode. La mode passe parfois. Après l'adolescence, eh ben voilà, la vie d'adulte qui commence. Alors, je sais pas quand ça commence, la frontière entre l'adolescence et la vie d'adulte.
Disons que nous, j'ai eu la chance de vivre à une époque où c'était assez rythmé, notamment par l'entrée dans le monde professionnel. Le jeune adulte, c'est parce qu'on était jeune adulte quand on avait un travail, quoi.
Et en étant instituteur, à 18 ans, on était adulte, finalement.
Parce que... On était adulte assez rapidement par rapport au temps moderne que nous vivons, mon cher ami. Mais Donc voilà, donc bon, à l'époque, c'est cette époque où j'étais jeune adulte, nous écoutions beaucoup de chansons, notamment de chansons françaises. Je pense à Mouloudji, Léo Ferré, Brassens.
Chansons à texte.
Beaucoup de chansons à texte. Et puis, il y a une mélodie qui me tient à cœur, qui était par une chanteuse qui était assez envoûtante et qui justement avait des accents de blues. Donc, qui s'appelait Colette Mani, qui est peut-être un peu moins en vogue à l'heure actuelle. Et j'ai souhaité que nous écoutions Mélocotton, qui a bercé effectivement ma vie de jeune adulte.
Alors Mélocotton ou Mélocoton ?
Mélocotton, avec un accent tonique sur la dernière syllabe.
Parce que parfois, dans certaines versions, on entend oui. Mélocotton, c'est pour oui. ça qu'elle vous pose la question. Colette Mani, vous disiez ?
Oui.
C'est ça, vous disiez Colette Mani, voici. Alors Mélocotton.
Mélocotton et boule d'or, deux gosses dans un jardin. Mélocotton, où est la maman? J'en sais rien, viens donne-moi la main. Pour aller où? J'en sais rien, viens. Papa, il a une grosse voix, tu crois qu'on saura parler comme ça? J'en sais rien, viens donne-moi la main. Mélocotton, mémé, elle rit souvent, tu crois qu'elle est toujours contente. J'en sais rien, viens donne-moi la main. Périne, elle est grande, presque comme maman, pourquoi elle joue pas avec moi? J'en sais rien.
Alors Jean-Luc, pour vous, je ne sais pas, mais moi ça me fait penser à une étrange comptine finalement, qui serait énoncée par deux enfants en dialogue, et dans laquelle Colette Mani évoque, et je crois qu'il faut le savoir, sa mère et ses neveux. Ces deux derniers apparaissent dès la première strophe sous les noms d'emprunt de Mélocotton et Boule d'Or. Ce sont deux gosses dans un jardin. Boule d'Or ne cesse de poser des questions sur les membres de la famille, de sa famille. Mélocotton, son frère, répond à chaque fois par une courte phrase qui sert un peu de refrain, de leitmotiv, on pourrait dire. « J'en sais rien, viens, donne-moi la main. » La strophe répétée de nombreuses fois par la chanteuse caractérise au final cette chanson et contribue à lui donner un aspect très particulier. Alors, quelques paroles de la chanson. Mélocotton, elle est où, maman? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Pour aller où? J'en sais rien, viens. Papa, il a une grosse voix. Tu crois qu'on saura parler comme ça? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Mélocotton, mémé, elle rit souvent. Tu crois qu'elle est toujours contente? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Voilà, on a vraiment l'aspect de la répétition. Et on compte plusieurs reprises de cette chanson. Catherine Ribeiro, Axel Red, ouais. Hervé Villard, Alain Leprest en ont donné une version. Axel Red a comparé Colette Mani à une John Baez, quand même. Le rapport Orelsan a samplé la chanson de Colette Mani et sur un disque qui s'appelle « J'ai suivi beaucoup de chemins » et le titre devient « Mes grands-parents ». D'autres ont dit que Colette Mani était un Léo Ferré au féminin. Quand même, belle appréciation. C'est vraiment dans le texte, dans l'implication des paroles, c'est ça ?
Oui, et puis c'est une chanson qui est très envoûtante, je trouve, qui finalement, je trouve qu'elle n'a pas pris de ride, quoi.
C'est une chanson de quelqu'un qui était un peu rebelle, quand même.
Oui.
Et la chanson est rebelle elle-même dans son style, dans son allure, dans ses textes. Mélocotton était un complément musical d'une scène d'un film, L'Ordre des Médecins, on revient au mode de la santé. Elle était interprétée dans le générique final de ce terme. C'est le passage de Colette Mani dans une émission qui s'appelait Le Petit Conservatoire de Mireille, qui lui a offert une notoriété fulgurante. Le Petit Conservatoire de Mireille, ça vous parle, Jean-Luc ?
Bien sûr. Ouais. J'ai le souvenir d'images en noir et blanc, Jean Noin, Mireille. Bon, c'est aussi une époque qui a manifestement marqué ma vie. Elle n'est pas toujours très gentille, d'ailleurs, Mireille. Mais je me souviens quand elle avait reçu Françoise Hardy, Dutronc. Elle a quand même... C'était un découvreur de talent fabuleux.
Est-ce que c'était fin ou est-ce que c'était réel? Je ne sais pas, quand même. On peut imaginer qu'il y a un peu de mise en scène.
Bien sûr.
En tout cas, le succès de Mélocotton ne propulse la chanteuse Colette Mani à la tête du hit parade. Et ça permet à cette chanteuse d'assurer la première partie de Sylvie Vartan à l'Olympia, quand même, avec son aimable comptine, qu'on vient d'écouter en tout cas, pour un extrait, elle séduit de façon inattendue le public venu pourtant et d'abord entendre la jeune chanteuse Yéyé. Alors Colette Mani a encore des admirateurs ici ou là. Son nom a été donné à une salle de concert dans un arrondissement de Lyon, à un établissement scolaire spécialisé, à Lys-les-Lanois, à une rue de Nantes, à une autre rue à Brest, à une rue et à une école primaire du 19e arrondissement de Paris, à une salle de classe de l'École nationale de musique de Villeurbanne, et à une salle de travail artistique et associatif à Munneville-sur-Mer, dans la Manche. On pourrait maintenant parler de vos préférences, Jean-Luc. Quel est, en matière de musique, l'interprète, le chanteur, la chanteuse que vous préférez et pourquoi ?
Disons que si le nom qui m'est venu spontanément, alors je pensais plus chanson, parce que si j'avais pensé à interprète d'autres musiques, j'aurais pensé à d'autres personnes. Mais le nom qui me vient tout de suite à l'idée, c'est Leonard Cohen, quand je pense interprète de chanson. Il a une voix qui m'a toujours profondément touché. Et je dirais, jusqu'à la fin, s'il a une voix qui m'a touché.
Alors, Leonard Cohen a écrit, composé plusieurs titres, beaucoup de tubes, et je vais aller plus loin, et je vais vous demander quelle est la chanson que vous préférez de votre interprète préféré, c'est-à-dire quelle est la chanson que vous préférez de Leonard Cohen parmi toutes celles qu'il a écrites.
Sans aucune réflexion, et comme le nom de l'interprète m'est venu, c'est Suzanne qui est parvenue immédiatement jusque dans les tréfonds de ma mémoire pour s'exprimer ici devant les auditrices et auditeurs.
Alors auditrices, auditeurs, connaissez-vous Suzanne ?
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China, and just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you her wavelength, and she lets the river answer that you've always.
Alors, même si c'est en anglais, on peut quand même parler des paroles, parce que le texte brosse le portrait poétique, très poétique, d'une femme dénommée Suzanne. Elle vit près d'un fleuve et inspire l'amour, parfois malgré elle. Tendrement qualifiée d'à moitié folle, vêtue de haillons et de plumes, elle est aussi décrite comme profondément généreuse, accueillante, hospitalière, offrant aux visiteurs des oranges et du thé venus de la lointaine Chine, et capable de faire ressortir le merveilleux en toute chose, au milieu des déchets et des fleurs. Bref, Suzanne, c'est comme une fée, non, Jean-Luc ?
Disons que j'écoutais cette chanson avec beaucoup de plaisir, là, et ce que j'apprécie aussi énormément chez Leonard Cohen, c'est que c'est un Américain que nous, Français, pouvons comprendre. Il ne prononce pas les mots avec des pommes de terre chaudes dans la bouche, comme souvent les Américains. Et c'est un grand régal d'écouter ça. Donc effectivement, on est dans le magique, dans le féerique, on est dans la poésie, tout simplement, quoi. Leonard Cohen, c'était un poète chantant, et il produisait des poésies chantées.
Et lors d'une interview qu'il a accordé à la BBC, Leonard Cohen a dit que la chanson évoque sa rencontre avec une Suzanne qui a existé. Suzanne Verdal, qui était la femme du sculpteur Armand Vaillancourt. Lorsqu'une journaliste a dit à Suzanne que la chanson nous invite à une rencontre fusionnelle entre deux esprits, elle a répondu que c'était exactement ça. Elle a ajouté que la rencontre entre elle et Leonard Cohen a été celle de deux esprits parfaitement synchronisés, l'un et l'autre pouvant presque s'entendre penser. Le tout sur un mode platonique, s'obligeait-elle à rajouter, paraît-il. Suzanne, c'est un tube, c'est une chanson mille fois reprise, elle aussi, par John Bell, par Harry Belafonte et par Neil Diamond. Suzanne, c'est une version française, très connue, interprétée par Graham Allwright. Nana Mouskouri a fait sa version aussi, Sylvie Vartan, Alain Bachung, Nolwenn Leroy, Ashburn et Pum en duo, et tant d'autres. Lisa Simone en a proposé son intervention. Lisa Simone, c'est la fille de Nina Simone, qui elle aussi a proposé son intervention. Interprétation de Suzanne par Nina Simone, donc.
Suzanne takes you down to a place by the river. You can hear the boats go by. You can spend the night forever. And you know that she's half crazy, and that's why you want to be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean...
Là encore, une chanson très différente de l'original, hein, c'est ça ? Dans l'interprétation, dans le choix d'accompagnement, mais un tube finalement, un tube...
Toujours aussi envoûtante, avec cette voix chaleureuse,
ouais,
et profonde.
Très ronde, très... Et je me permets ici un clin d'œil à René Marion, pourquoi ? Parce qu'il a été le tout premier invité d'une émission de la série Un moment avec, et c'est avec cette chanson, Suzanne, qu'il avait ouvert l'émission en chantant, c'était celle qu'il fredonnait.
Un homme de goût.
René Marion. Ah là là, quel souvenir. Bonjour René.
Un moment avec.
Alors la musique, c'est ailleurs, vous avez dit, avec Leonard Cohen, c'est loin, mais plus précisément, Jean-Luc, si on partait, Jean-Luc, emmenez-moi, Jean-Luc, emmenez-nous. Quelle chanson vous transporte dans un lieu que vous aimez et pourquoi ?
Immédiatement, c'est la mère de Charles Trenet qui s'impose. Parce que ça fait partie, je pense, de mes meilleurs souvenirs d'enfance. À la fois l'écoute de cette chanson, puisque Trenet avait cette particularité que nous pouvions l'écouter en famille. Quand j'étais enfant, voire adolescent, où les goûts étaient vraiment très
sur
différents.
Sur le dont vous parliez tout à l'heure.
Parents, peut-être. Non, sur d'autres outils, avec d'autres outils quand même, ouais, qui étaient un peu plus sophistiqués que le TEPAZ, mais finalement, peu importe, quoi. Et il est clair que traîner nous rassemblait, et puis la mer, c'est aussi ces vacances. Bon, je pense que nous étions finalement familialement très congé payés, très après Front Populaire, et que ces départs dans ces grosses bagnoles noires, longues comme un jour sans pain, jusqu'à la mer, quel bonheur, quel plaisir, et sur la National 7 entre autres, mais aussi sur la route de Royan. Donc c'est vraiment, ça s'impose à moi. Pour aller voir ailleurs, c'est avec Charles Trenet.
Eh bien oui, on va écouter une version qui est remasterisée, c'est-à-dire qu'elle est, améliorée techniquement avec des retouches qui peuvent permettre des gommages liés à l'usure et au temps qui passe. Alors, comment cette chanson est née ? C'est dans un train entre Montpellier et Perpignan que Charles Trenet est inspiré par le paysage. Et en une vingtaine de minutes, à peu près, il écrit une chanson qui s'appelle « La mer ». Pourtant, ce n'est pas la Méditerranée qu'il voit par les fenêtres du train, c'est l'étang de Thau. L'étang qu'on voit danser... Ça pourrait être le titre de la chanson, mais peut-être que c'est moins poétique que la mer qu'on voit danser par rapport aux paroles. La musique sera arrangée avec le concours d'un pianiste, Léo Choliac. La mélodie provient de la chanson Heart and Soul, créée dans les années 40, outre-Atlantique. Trenet ne croit pas au potentiel de cette chanson. Il la trouve trop solennelle et trop rococo et il ne l'enregistre pas. Il la propose à une chanteuse de l'époque qui s'appelle Suzy Solidor. Celle-ci la rejette en prétextant que des chansons sur la mer, on m'en envoie 10 par jour. Plus tard, Roland Gerbeau enregistre la chanson avec une autre chanteuse, René Lebas, et puis un éditeur musical, Raoul Boltron. Il dira à Charles, allez Charles, il faut absolument que tu l'enregistres. Et la mer est devenue un des tubes de Charles Trenet, vendu à plus de 70 millions de copies, quand c'est lui qui l'interprète, comme nous allons l'entendre maintenant. La mer... Charles Trenet.
mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent la mer des reflets changeants sous la pluie la mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs la mer bergère d'azur infinie je voyais près des étangs ces grands roseaux mouillés.
Alors la mer qui ne connaît pas la mer, ça aurait peut-être pu être la chanson que vous fredonniez, finalement.
Ça aurait pu, mais non.
L'accompagnement de cette chanson est...
Je maintiens mon Eurydice.
Ah, bien sûr.
Sous la douche.
C'est important. L'accompagnement est basé sur un anatole, c'est-à-dire une succession, d'accord. Et cette succession se répète inlassablement. Nombre de chansons du domaine des variétés sont écrites sur un anatole. Et puis nombre de musiques aussi dans d'autres domaines. Il y a une chanson de Michel Sardou qui s'appelle « L'anatole » et qui reprend une partie du refrain de la chanson « La mer » de traîner. La mer, quoi de plus simple que la mer, des moutons blancs sur un ciel d'argent et des reflets d'argent. Cette chanson est un véritable hommage que Michel Sardou a voulu rendre à Charles Trenet, en lui empruntant au final dans cette même chanson plusieurs textes et plusieurs mélodies. Si on s'arrête aux paroles, cette chanson est une réaction adressée à Michel Sardou, alors qu'une femme lui disait « ça rapporte gros la chansonnette ». Et Michel Sardou a dit, tiens, je vais écrire une chansonnette. Ça a été un succès. Et peut-être que ça a convaincu cette dame que écrire un tube n'était pas donné à tout le monde. Le refrain de la chanson Gabi, au Gabi d'Alain Bachung fait allusion à la mer. Tu veux que je te chante la mer? Le long des golfs, pas très clair. On trouve la chanson sur une piste instrumentale du groupe Nine Inch Nails dans l'album The Fragile. Et puis des reprises. Et combien? Je vais citer celle d'un groupe que j'apprécie beaucoup, c'est Chanson Plus Bifleurée, avec une dimension parodique, qui reprend la chanson, dans une partie en verlan, rendez-vous compte. Au total, pour les années 2000 ou environ, on dénombrait près de 4000 interprétations de la mer en différentes langues. La pièce Bonjour de Ragnar Kjartansson utilise la mer comme fond musical et sonore. Avec la mer, nous avons vu du pays. Alors si on parlait plus précisément d'une autre pays, la France, Jean-Luc, la musique à la France, quelle chanson pourrait représenter la France pour vous?
Alors, le titre que je vais proposer est assez disruptif, mais en cette période de carnaval, je dois dire que je suis assez sensible au fait que bah, dans le monde, il y a les petites gens et il y a les autres, et... Il y a des moments où les petites gens se sentent un peu opprimés, se sentent mal, se sentent... Et on leur a ménagé, il faut être clair, des instants de défoulement. Bon, c'est vraiment le but du carnaval, où tout finalement est permis. Il n'y a plus...
Ou presque.
On
ça dépend à quelle période de l'histoire.
On n'est pas loin quand même, mais dans les charivaris du Moyen-Âge aussi, bon... Et j'ai choisi une chanson qui me paraît aussi symboliser la paillardise. Cette chanson, elle raconte quelque chose qui s'est passé au marché de Brive-la-Gaillarde, donc le marché de Brive-la-Gaillarde, la France profonde. Et qu'est-ce qui s'est passé au marché de Brive-la-Gaillarde qu'ont fait les marchandes des quatre saisons? Et c'est vrai que ça évoque pour moi cette irrévérence, cet esprit truculent, un peu rablaisien, et c'est tout simplement, le suspense est torride.
Absolument.
C'est tout simplement Garogori, interprété par Georges Brassens.
Par le grand Georges.
C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, c'est comme mère lorgnait même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Garogorie,
à coup la prison bien close où vivait le bel animal. S'ouvrant, c'est pourquoi je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le singe en sortant de sa cage dit c'est aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelage. Vous aviez deviné, j'espère, Garogory.
Alors j'ai vu, auditrice, auditeur, et entendu presque Jean-Luc chanter dans sa tête, au moins la phrase Garogory, Jean-Marc aussi de l'autre côté de la vie, Lisette qui est avec nous ce matin, et moi forcément. Alors Garogory, c'est pour rigoler, c'est ça?
Bien sûr, bien sûr.
Alors devenons un tout petit peu sérieux, peut-être, pour choisir une chanson ou une musique qui interroge l'histoire, l'histoire avec un grand H, pas forcément de la France.
Alors, moi je suis resté dans l'histoire, bon, avec un grand H, mais de la France quand même. Puisque bon, chacun finalement fait avec ce qu'il est. Moi je suis né en 1954, c'était 9 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, période qui a beaucoup marqué nos grands-parents, nos parents, et qui par imprégnation nous a marqué aussi. Et donc cette chanson qui incarne un moment fort, c'est une chanson qui a été, bon, on va dire, découverte par Joseph Kessel, avec l'aide de Maurice Druon. C'est sur une chanson populaire, je crois que c'était d'une anglaise, et c'est le chant des partisans qui est un chant qui me remue toujours profondément. De par sa musicalité et de par la profondeur des choses auxquelles ça nous rapporte.
Alors le chant des partisans, qui s'appelait aussi, qui s'appelle peut-être encore, le chant de la libération, c'est pendant la Seconde Guerre, l'hymne de la résistance finalement, la résistance française, durant l'occupation par l'Allemagne nazie. La version du chœur de l'armée française.
Ces cris sourds du pays qu'on enchaîne. Ô les partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades.
Alors on a entendu la version de l'armée, le chœur de l'armée française, mais c'est Germaine Sablon qui a été la créatrice de cette chanson. Elle était la compagne de Kessel, qui avait, vous le disiez tout à l'heure, écrit les paroles ou réécrit les paroles avec Druon. Et le manuscrit original a été apporté clandestinement en France. Et il est depuis classé monument historique et conservé au musée de la Légion d'honneur. Jean-Luc, est-ce que vous savez que dans l'émission Un moment avec, on joue? Et on propose des jeux aux auditeurs.
J'en ai entendu parler, ça dépasse les frontières du studio.
Évidemment. Donc, je vous ai demandé de choisir une chanson, et nous avons proposé à Jean-Marc de la cacher, de la déguiser. C'est le moment de la chanson cachée. On va donc écouter trois extraits d'une chanson cachée, trois extraits assez courts. Auditrices, auditeurs, rapprochez-vous de vos téléphones. Composez le 05 45 95 09 87, 05 45 95 09 87, et la première ou le premier qui donne la réponse, il a gagné quoi? Il a gagné un CD ou un DVD et une invitation à participer à une prochaine émission de la série Un moment avec. Vous êtes prêt, Jean-Luc, pour écouter les extraits? Et vous me direz à partir de quel moment vous avez retrouvé votre chanson. Premier extrait.
On agit la peau, vous abrilot à Bordeaux, vous as la logique, manit à mat, vache, vous as la logique, manit à mat.
Attends un peu.
Alors, bon. Voici Voici le deuxième extrait. Le très deuxième bien. Extrait de la même chanson. Beaucoup plus tard. Il est encore plus enrhumé que moi. Pour jouer, c'est le 05 45 95 09 87, c'est le numéro du standard de RDC 93.4 et 92.5. La première, le premier qui donne le titre de la chanson, a gagné un CD et un DVD et une invitation à une prochaine émission. Voici le troisième extrait déguisé. Jean-Marc, c'est à toi. La première, le premier qui donne le titre de la chanson cachée, a gagné un CD, un DVD et une invitation à participer à une prochaine émission. Jean-Luc, nous revenons à votre parcours, on verra la réponse dans quelques minutes, la réponse à ce premier jeu de l'émission Un moment avec. Je voudrais qu'on parle de la musique en lien avec, j'allais dire, votre état d'esprit, mais vos états d'esprit, finalement. Quelle musique, ou plus largement, qu'est-ce qui peut procurer de la joie pour vous ?
Ce qui me procure une immense joie, de manière systématique et avec toujours le plus grand bonheur, c'est un extrait d'un opéra de Purcell, et c'est « Sound the trumpet ». C'est quelque chose...
Si on traduit « résonner trompette ».
Voilà, sonner tambour, résonner trompette, bon, on connaît bien ça. Mais c'est vrai que je recommande, en cas de coup de blues, je recommande à tous ce chant, finalement, qui est d'un dynamisme, qui est tonique, qui fait du bien. Et ça aussi, on a parlé tout à l'heure du lien entre l'éducation, le soin, mais parlons également du lien entre la musique et le soin, parce que c'est une musique
qui
guérit. C'est vraiment quelque chose de fabuleux. Et c'est avec grand plaisir que je l'écoute, et j'attends de savoir pour savoir quelle version vous avez choisi.
Alors bon, il y en a mille ou plus. Voilà. Hein. J'ai choisi celle de Philippe Jaroussky et de Pascal Bertin, c'est-à-dire deux contre-ténors français. Je vous donne quelques paroles. Tant sur la trompette sonnée qu'en écho les rives répondent autour, sur le lest au bois joué, sur tous les instruments de joie, qu'en foule la ville on s'emploie pour célébrer la gloire de ce jour. Sound the trumpet, c'est un des six duos vocaux composés par Henry Purcell, compositeur anglais ô combien renommé. Et Purcell a développé une forme proprement anglaise de la musique baroque. Il a su incorporer dans la forme qu'il a retenue, qu'il a inventer finalement les avancées des éléments stylistiques italiens et français qu'il avait entendu ici et ailleurs, au-delà des frontières notamment. Un duo, qu'est-ce que c'est ? C'est une composition musicale pour deux interprètes dans laquelle chacun revêt une égale importance. En tout cas, c'est comme ça que Purcell l'a écrit. Et un duo peut être écrit pour deux voix, pour deux instruments, ou encore pour une voix et un instrument. Sound the trumpet pour deux voix au départ, c'est même interprété parfois par une voix et un instrument.
Oui.
C'est toujours avec un immense plaisir que j'écoute moi aussi cette chanson, Sound the Trumpet. Alors ça, c'était la joie. Alors on va aller vers le contraire.
Et ça continue, ça me procure une grande joie. cette musique du 17e. Et vous avez bien fait de rappeler les différentes influences de Purcell, parce qu'on a tendance à croire que le temps des voyages, ça a été le 20e, le 21e siècle. Il ne faut pas oublier que dès le Moyen-Âge, les artistes, quels qu'ils soient, que ce soit les bâtisseurs de cathédrales ou les musiciens, ils se déplaçaient au moins dans l'Europe entière et faisant leur miel des influences des autres et des apports des autres. Et alors, c'est vrai que c'est toujours aussi tonique, aussi dynamique. Je reconnais que j'adore cette musique.
On partageait la joie et on la partage toujours. Il arrive qu'on partage la tristesse. Quelle chanson, quel air peut évoquer la tristesse, Jean-Luc, pour vous?
Ah, c'est ce même Purcell qui a écrit The Cold Air, alors l'air du froid, je pense. C'est quelque chose qui est glaçant et chacun va le reconnaître, même s'il connaît pas, il ne sait pas que c'est Purcell, que chacun va le reconnaître. C'est quelque chose qui est prenant et glaçant et qui effectivement peut inciter à la tristesse, que je ne recommande pas un soir de pleine lune quand les loups hurlent à la mort dehors et qu'on est seul.
Ça foutrait des chocottes. Hein. Voici l'air du froid, donc, extrait d'un célèbre opéra, King Arthur, le roi Arthur, écrit par Purcell. Alors l'histoire, rapidement, le roi des Saxons attaque le roi Arthur pour le déposséder de son royaume et pour épouser sa fiancée. Il enlève cette fiancée, il l'enferme dans un château, et le château est protégé par un mage du méchant roi, pour ne pas qu'elle puisse être délivrée ou s'échapper. Et finalement, les grands méchants veulent paralyser le royaume grâce au génie du froid et à l'esprit de l'hiver. On entend alors pendant la scène du givre, l'air du froid, une puissante et presque tremblante voix de basse. C'est l'air du froid. C'était la version de João Fernandes, une basse du Portugal, issue du Portugal, un portugais, accompagnée par le concert spirituel dirigé par Hervé Niquet. La mise en scène, à cette époque-là, ou ce moment-là, c'était réalisé par Corinne et Gilles Benizot, c'est-à-dire Shirley et Dino, qu'on connaît plus avec leur caractère d'humoriste, mais ils font aussi des mises en scène d'opéra et d'opérette. Mais dans cet opéra, avec l'aide de Cupidon, tout va aller bien, quoi. Tout est bien, qui finit bien. Après un combat entre le méchant roi, Arthur libère sa bien-aimée. Ouf, on a eu chaud, Jean-Luc, hein, c'est ça. Il faut évidemment citer l'interprétation magistrale de ce même air que Klaus Nomi réussit.
Exactement.
En chantant ce chef-d'œuvre. Puis, plus près de nous, il y a peu d'années, une version donnée par un jeune chanteur, Andreas Pérez Ursulet, qui a permis de devenir vainqueur de l'émission Prodige. Notons que ce jeune chanteur est baryton et contre-ténor, c'est-à-dire qu'il a un ambitus assez impressionnant.
Avec Stéphane, pour Un moment avec.
Bon, alors Jean-Luc, nous sommes remis de nos émotions.
Alors je voudrais dire, il est très compliqué pour ces deux chants de Purcell, ouais. Il est très compliqué de les chanter dans sa salle de bain, parce que monter aussi haut que Jarowski contre-ténor et descendre aussi bas que Klaus Nomi dans les basses, franchement, on n'y arrivera pas, mais on peut s'amuser quand même à essayer de le faire.
Est-ce que la musique, dans un autre domaine émotionnel, peut provoquer la colère? Qu'est-ce qui vous met en colère? Qu'est-ce qui peut vous mettre en colère? Et quelle chanson pour évoquer la colère?
Ouais, j'ai souhaité qu'on écoute une chanson de Amy Winehouse, récemment disparue, La colère qui peut me venir, c'est celle d'une vie gâchée. C'est quand j'assiste au triste spectacle d'une vie gâchée. Je ne sais pas exactement ce qu'avait vécu cette jeune femme, mais je sais qu'elle est passée par les enfers de la drogue. Et entre les influences qu'elle a subies, enfant, et puis cet enfer-là, c'est vrai que c'est une de mes colères, les vies gâchées, ces jeunes vies gâchées.
Alors, on écoute un extrait ?
Oui.
C'est Amy Winehouse. Alors gâchée par quoi? Gâchée par plein de choses dont elle aurait abusé hein, dans le domaine de l'alcool.
Mais sachant qu'elle n'a pas été seule dans cette.
Et elle a été sûrement
dans ses aventures.
Par d'autres personnes et d'autres circonstances. Et voici Frank, intro, Amy Winehouse. Alors cette chanson, vous avez entendu, auditrice auditeur, c'est un petit bout d'une intro, et puis la chanson elle-même, oserais-je dire, commence un petit peu après. Amy Winehouse nous a quittés en tant qu'artiste bien trop tôt, je trouve, elle avait 27 ans. Et avec d'autres, elle fait partie de ce qu'on a appelé le club des 25, et des 27, pardon, parce que je ne sais plus compter. Oui. Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, Brian Jones, tous n'ont pas passé le cap des 27 ans, allez savoir pourquoi, il y a quelque chose là-dedans.
Une très belle voix, assez envoûtante.
Jean-Luc, si on passait à quelque chose de plus gai, qu'est-ce qui peut inviter au partage et à la rencontre ou au à la rencontre?
Alors, je vais revenir un peu dans le passé, bon, évoquer un chanteur que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est si j'ai
peut-être
quelques,
même les plus de 30 hein, maintenant.
Voilà. Et si j'ai quelques secondes. Je voudrais revenir à plusieurs soirées qui ont été importantes dans ma vie, notamment une soirée entre amis où je crois que c'est mes enfants qui m'avaient offert pour un anniversaire le coffret complet des œuvres de l'interprète dont nous allons parler. Et nous avions des amis à la maison un soir et nous avons mis une chanson. Et finalement, je crois que l'intégrale du coffret y est passée parce que tout le monde l'a chantée.
Et cette chanson, c'était
cette chanson, c'était... Alors, on ne va pas s'occuper vraiment de ce que raconte la chanson, mais c'est Takati Takité par Bobby Lapointe.
Alors,
l'inénarrable Bobby Lapointe.
J'espère que la Cathy ne quittera pas tout le monde.
Ce soir, au bar de la gare, Igor Agar et Noir, il n'arrête guère de boire. Car sa Katia, sa jolie Katia, vient de le quitter. Sa Katia l'a quitté, il a fait chou blanc, ce grand duc, avec ses trucs, ses astuces, ses ruses de russe blanc. Ma tactique était top, Igor qui s'endort, ivre mort au comptoir du bar. Un russe blanc qui est noir, quel bizarre hasard se marre, l'effet tapaillard du bar. Pas encore Igor, il dort, mépris de son oreille, merveilleux réveil vermeil, lui prodigue des conseils pendant son sommeil. Tic-tac, tic-tac, tac-a-tic-a-quitté, tic-tac, tic-tac, tac-a-tic-a-quitté, tic-tac, tic-tac, t'es concu qu'attends-tu, puis-te-toi, t'es concu.
Alors c'est le jeu de mots, le jeu des sonorités, c'est ça? C'est quelque part, ça me fait penser, si on a été instituteur, on a forcément croisé à un moment ou un autre le prince de mots tordus. Parce que c'est oui. Finalement fondé sur des jeux de mots aussi. Dans ces albums-là, de PEF, on peut par exemple apprendre que le roi vit dans un chapeau et non pas dans un château. Savez-vous que Bobby Lapointe a rédigé aussi un recueil de poèmes et un traité sur les calembours? Il est peut-être moins connu pour avoir inventé un système bibinaire, c'est-à-dire un système de numération, quand même qui préfigurera une voie suivie par l'évolution de l'informatique. Certaines de ses chansons furent reprises au cinéma. Aragon et Castille, par exemple, interprétées par Bourvil. Et puis là, il a croisé nombre de pointures, Raymond Devos, Rissé Barrier, François Thureau, Charles Aznavour, Michel Fugain, Claude Pied-Plumier, Lucien Maurice, etc., etc., etc. C'est le moment, Jean-Luc, s'il vous plaît, de donner la réponse à la chanson cachée. Vous vous rappelez tout à l'heure, on a entendu trois déguisements d'une chanson. Ces déguisements, nous les devons à Jean-Marc et à son savoir-faire. Et la chanson cachée, c'était...
Alors, la chanson cachée, elle était en rapport étroit avec le chant des partisans que nous avions passé juste avant, par rapport donc à ce moment fort de, de la chanson. C'est une chanson qui est tout aussi belle et tout aussi émouvante. C'était le chant des résistants italiens durant la Seconde Guerre mondiale. Et malgré le talent de Jean-Marc, il est difficile de la cacher. C'est Bella Ciao.
D'autant plus que les trois extraits allaient du plus compliqué, je vais dire, au plus facile, voilà. Évidemment. Et Bella Ciao, alors on écoute maintenant ?
Avec plaisir.
Alors, Bella Ciao.
Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio.
Je me tourne vers Jean-Marc et vers Lisette. Je crois que nous avons une gagnante, alors que beaucoup de coups de fil ont été passés aujourd'hui, n'est-ce pas ? Une bonne dizaine, paraît-il. Et c'est Jean-Luc qui va nous donner le nom de la gagnante ou du gagnant, je ne sais pas.
Bien, je me permets de féliciter Marie-Claude de Saint-Junien, qui a donné la bonne réponse, qui a manifestement été la première à la donner. Et malgré le talent de Jean-Marc pour dissimuler la chanson, elle a trouvé très rapidement. Bravo Marie-Claude.
Oui, bravo, et puis au plaisir de vous envoyer un CD, un DVD, et de vous recevoir, si vous le voulez, dans une prochaine émission de la série Un moment avec. Allez, on joue encore Jean-Luc.
Allez.
Cette fois, c'est le jeu que j'appelle le moment du moment avec. C'est une question qui est posée aux auditrices, aux auditeurs, en rapport avec un moment de l'émission. Vous nous avez parlé tout à l'heure d'un chanteur préféré, le chanteur c'était Leonard Cohen, et vous nous avez donné la chanson que vous préfériez de ce chanteur.
Moi j'ai la réponse, mais je ne la donne pas.
Ah non, ils peuvent vous torturer, je ne parlerai pas de toute façon, c'est très clair. Voici donc la question, quelle est la chanson préférée de Leonard Cohen, préférée par Jean-Luc Excousseau, et qu'il nous a fait tout à l'heure écouter sur RDC 93.4 et 92.5, évidemment.
Vous êtes sur RDC pour Un moment avec.
Un moment avec, c'est avec Jean-Luc Excousseau. C'est le moment des portraits. Alors Jean-Luc, je vous ai demandé de m'indiquer quelle personne de votre environnement pourrait donner le titre d'une chanson qui, pour cette personne, pourrait vous être associée à vous ou vous décrire. Alors évidemment, j'ai demandé à l'invité pourquoi cette chanson. La personne que vous m'avez indiquée, on est le lendemain de la Saint-Valentin, hein. Donc c'est votre épouse, son prénom c'est
Myriam.
Alors Myriam, je la salue. Et Myriam, voilà ce qu'elle écrit. Un moment avec Jean-Luc Excousseau, c'est le titre de l'émission, la chanson portrait, et elle commence en disant « Toi, point de suspension. Tu sais, la chanson portrait qui m'est venue n'est pas une chanson. C'est un air instrumental. C'est une composition que Johann Strauss, le père, écrivit pour un orchestre symphonique. Peut-être que vous avez trouvé, Jean-Luc, cette œuvre, c'est La Marche de Radetzky. Pourquoi ? Parce que, dit Myriam, comme toi, elle est dynamique, elle est gaie, elle est enjouée, et aussi parce que nos petits-enfants l'aiment beaucoup. Est-ce un bon choix ?
C'est un excellent choix.
Alors, dans quelques temps, nous avons La Marche de Radetzky. Myriam, je vous salue à distance et je vous envoie un grand merci et un grand bravo parce que je crois que vous avez fait mouche.
Exactement.
Hein, je ne crois pas finalement, je sais que vous avez fait mouche. La première fois que cette œuvre a été jouée devant des officiers autrichiens, le public a tapé des mains à la demande du chef d'orchestre. Public et orchestre sont ainsi associés depuis le début ou presque, sans doute pour le plaisir des uns et des autres, si on en croit les sourires affichés, les regards de connivence échangés, et notamment lors de chaque concert du Nouvel An diffusé à la télé. Jean-Luc, faire que le public devienne interprète, c'est une bonne chose, c'est une bonne idée ?
Oui, ouais, bien sûr.
Ça l'implique ?
Oui.
Et puis cette œuvre musicale, elle a donné son titre à un roman, à une série télévisée, et puis elle apparaît dans de nombreuses reprises, dans une autre série télévisée, Le Prisonnier. Elle a rythmé un film, Le Colonel Redol. Elle a été adoptée par l'armée de terre chilienne pour ses défilés. Elle a été utilisée pour sa campagne de publicité par un pays d'Amérique du Sud dont j'ai oublié le nom, à ma grande honte. Maintenant, Jean-Luc, c'est vous. C'est vous qui avez donné le titre d'une chanson qui peut vous décrire ou illustrer un moment de votre vie, et évidemment, pourquoi cette chanson ?
On va revenir à Leonard Cohen. La chanson que j'ai choisie, c'est Blood and Wine. C'est une chanson peut-être qui me décrit assez, dans la mesure où, dans sa chanson, Leonard Cohen dit « Like a blood and wire, I've tried in my way to be free ». Donc il a essayé d'être libre.
Alors peut-être que vous pourriez donner la traduction.
Donc comme un oiseau sur le fil, j'ai essayé à ma manière d'être libre. Mmh. Et je crois que c'est peut-être ce qui traverse quand même ma vie, c'est-à-dire que j'ai toujours refusé les embrigadements, l'enfermement dans les clans, dans les idéologies. À ma façon, j'ai essayé et j'essaye toujours, malgré les contraintes, j'essaye d'être libre.
Est-ce que vous adopteriez donc les paroles que je vais traduire, enfin en tout cas je vais oser une traduction, de cette chanson qui dit « Comme un oiseau sur un fil, comme un ivrogne dans une chorale de minuit, j'ai essayé à ma manière d'être libre, comme un asticot au bout d'un hameçon, c'est pas la vraie liberté, ça. Comme le chevalier d'un livre démodé, c'est uniquement à toi que sont réservées toutes mes faveurs. Si j'ai été cruel, j'espère que tu peux seulement laisser aller. » Je peux pas m'empêcher de trouver un lien avec la Saint-Valentin, parce que, évidemment... c'est uniquement à toi que sont réservées toutes mes faveurs. Est-ce que ça serait à Myriam ?
Laissons planer le mystère, mais sans aucun doute.
On the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like the worm on a hook, like a knight from some old-fashioned book, I have saved all my ribbons, believe.
Jean-Luc, je vois l'heure qui tourne et on s'approche de la fin de la chanson, donc de l'émission, des dernières chansons. Et il est de coutume de demander à l'invité de faire des cadeaux, d'offrir des cadeaux.
Allez,
alors,
soyons fous.
Un cadeau à la personne de votre choix, que vous citez ou pas. Quelle chanson offrez-vous comme un cadeau à une personne ?
C'est à Myriam, puisque nous en parlons depuis quelques temps. Et j'aurais tendance à dire, à travestir le titre de la chanson que j'ai choisie, et à dire c'est « All we need is love ». Mais le vrai titre de la chanson des Beatles, qu'elle adore, c'est « All you need is love ».«
All you need is love », mais nous avons tous besoin d'amour.
Bien entendu.
Alors, All You Need Is Love, c'est une chanson très connue, peut-être parmi les plus connues des Beatles. Elle est devenue l'hymne du Flower Power il y a quelques dizaines d'années déjà. Et même si elle est créditée à John Lennon et Paul McCartney, comme beaucoup des titres des Beatles, la chanson sera toujours particulièrement associée à John Lennon, lui qui n'a jamais cessé de délivrer des messages d'amour. dans le contexte de sa publication, notamment la guerre du Vietnam, qui a fait rage. Cette chanson a accompagné l'essor du mouvement hippie. Il y a quelques années, la chanson a été interprétée simultanément dans 156 pays, belle performance technique, dans le cadre d'une campagne contre le sida. Le nombre des auditeurs a alors été estimé, la fourchette est large certes, mais quand même, entre 400 et 700 millions. Presque autant que le nombre de personnes qui écoutaient RDC ce matin grâce à Jean-Luc Escousseau sur 93.4 et 92.5. Parlons des Beatles, rappelons que la date du 25 juin est celle de la célébration annuelle de la journée des Beatles. Et puis au début de All You Need Is Love, on entend la Marseillaise. Mais il arrive que dans certains concerts, la Marseillaise a été remplacée par le God Save the King, comme on dit maintenant, King. The Queen, comme on disait à l'époque. Et puis il y a eu d'autres ajouts dans la version d'origine. Un emprunt à Greensleeves, une très vieille chanson. Une autre chanson anglaise du XVIe siècle dont on a perdu le titre. Une invention de Jean-Sébastien Bach et puis In the Mood de Glenn Miller. Mais finalement, ces emprunts ont été peu ou prou abandonnés. Et c'est George Martin qui a écrit l'arrangement pour orchestre symphonique que nous venons d'entendre. Et c'est à lui que nous devons le célèbre écho. Ratatatata, l'amour, 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 toujours l'amour.
Avec Stéphane, pour un moment avec.
Alors je rappelle la question du jeu numéro 2. Quelle est la chanson préférée du chanteur préféré de Leonard Cohen, qui est le chanteur préféré de Jean-Luc Escousseau, 05 45 95 09 87. Auditrice, auditeur, vous pouvez encore appeler. Le cadeau cette fois, Jean-Luc, il est pour toutes les auditrices et tous les auditeurs. Essayez.
J'ai choisi une chanson de Nino Ferrer, une chanson qui est peut-être un peu plus triste que celle qu'on a l'habitude de l'entendre interpréter, qui s'appelle Le Sud, qui par sa grande, c'est une grande nostalgie, mais c'est une musicalité intense et qui est peut-être propice bon, à cette fin d'hiver. Quoi. Donc voilà, je dédie aux auditrices et auditeurs Le Sud de Nino Ferrer, qui est pour moi une très belle chanson.
Très belle chanson, la mélodie, les paroles, etc. Voilà. Et puis moi je pense que c'est un peu à l'image de sa carrière, parce que ça fait partie, je vous le dire, c'est pas péjoratif, hein, des chansons qui ont eu un grand succès populaire, et d'autres de ces chansons ont eu moins de succès. Il y a eu des négociations pour faire cette chanson, il faudrait que tu chantes ça avec sa maison de disques, etc. Ah, quand l'aspect lucratif et commercial est lié à l'art, c'est pas toujours facile. Au départ, il y a eu South comme titre, et oui. Puis c'est devenu Le Sud. Le Sud connaîtra encore des reprises comme S'il en pleuvait, Alain Bachung, et puis celle en anglais d'un groupe belge, Vénus, celle du chanteur Murray Head, grand ami de Nino, qui, à chaque fois qu'il chante en France, commence sa chanson par Le Sud. Alors voici Le Sud par Nino Ferrer.
C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. On dirait le sud. Le temps dure longtemps, et la vie sûrement plus d'un million d'années.
Très près de nous, il y a quelques années seulement, un autre groupe a fait sa proposition de cette chanson, c'est le groupe Feu Chatterton, dans une émission de France Inter, et puis 200 voix d'enfants ont fait sonner cette œuvre de Nino Ferrer dans la cour du château des Ducs de Bretagne, à l'occasion d'une fête de la musique. C'est le moment, Jean-Luc, de vous remettre au boulot pour donner le nom du gagnant ou de la gagnante à la question du jeu numéro 2. Quelle était votre chanson préférée de votre auteur préféré?
Donc la chanson que je préfère, c'est Suzanne, par Leonard Cohen. Et donc, nous avons eu de nombreux appels, encore une fois.
Et la gagnante ou le gagnant, c'est...
Et parité oblige, c'est un garçon qui a gagné. C'est donc Pierre de Ronsnac, que nous félicitons. Après Marie-Claude de Saint-Junien, Pierre de Ronsnac. Donc, les deux coins de notre petit hexagone, finalement, sont saturés, pas de problème. Bravo, Pierre de Ronsnac.
Bravo, bravo, et merci, merci aussi à... la gagnante du jeu précédent, Marie-Claude. Je parlais des reprises de la chanson du Sud. Alors on va pas écouter, mais je voudrais signaler simplement que les sœurs Berthollet ont fait une belle adaptation pour violoncelle, parce que la musique c'est aussi l'air, c'est la chanson, et elles le chantent aussi. J'invite les auditrices et les auditeurs à écouter cette chanson sur n'importe quel moteur de recherche. La dernière chanson, Jean-Luc, c'est ce que j'appelle, moi, la chanson oubliée, ou plutôt la chanson à ne pas oublier. Jean-Luc, pour que vous ne rentriez pas chez vous en pensant que vous auriez dû nous faire écouter une chanson ou une autre, pour que cette chanson ne soit pas la chanson oubliée, laquelle nous proposez-vous maintenant, alors que la fin de l'émission est toute proche, c'est pour pas avoir de regrets, quoi. La chanson à ne pas oublier, quelle chanson ajouter ?
J'ai pensé à William Scheller, qui est quelqu'un qui, à mon avis, il ne faut pas oublier, et notamment à sa chanson, donc, Un homme heureux. Alors peut-être que le texte de la chanson n'est pas exactement la description d'un homme heureux, mais le titre me convient bien, et les mélodies de William Scheller sont toujours aussi excellentes. Donc c'est la chanson que je dédie aux auditrices et aux auditeurs.
Ouais, William Scheller, chanteur, William Scheller des paroles, mais aussi de la mélodie, ouais. Au piano très souvent. Puis après, il y a eu là aussi des reprises. C'est une chanson de William Scheller, donc extraite d'un album enregistré en public. C'est assez rare. Et elle constitue l'unique chanson inédite de cet album. Elle vaudra à Scheller un trophée de chanson de l'année lors d'une édition des Victoires de la musique. Elle a rencontré un large succès, tant dans le domaine des ventes que dans celui des hit parades. C'est d'ailleurs la seule chanson de Scheller à s'être classée de manière intéressante au top 50. Dans cette chanson, William Scheller se pose des questions sur les sentiments amoureux, mais on va retenir, comme vous le disiez, Jean-Luc, un homme heureux, vous l'êtes ?
Bien sûr.
Alors c'est très bien que tous les hommes soient heureux.
Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Ils ont, quand ils s'en viennent, le même regard d'un seul désir pour deux. Ce sont des gens heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Quand ils ont leurs problèmes, bah y'a rien à dire, y'a rien à faire pour eux. Ce sont des gens qui s'aiment. Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux.
Alors c'est devenu, cette chanson, l'un des plus grands succès de William Scheller. Et elle a figuré sur plusieurs de ses albums, donc en plusieurs versions, on va dire. Et il l'a reprise en duo avec Kent sur le plateau d'une émission, Taratata pour la citer. Un homme heureux a été reprise aussi par Renaud et Patrick Bruel pour un concert des Enfoirés. Et elle figure sur un des albums des Enfoirés en chœur. Louane l'a interprétée dans The Voice, émission télévisuelle bien connue. La chanson a été aussi reprise par Florent Pagny et Patrick Bruel. Et elle a été proposée à Barbara Pravi, qui a vraiment accepté d'en faire, je trouve, une belle version. Elle a même, en traversant les frontières, été interprétée avec une touche orientale par Mike Massey et Séverine Parent. Et elle a été chantée par Calogero dans son album Simplement Scheller. Tout est dit, quel hommage, n'est-ce pas, rien qu'avec ces deux mots. Jean-Luc, si je comprends bien, donc votre message, c'est soyons heureux, hein, je reviens, et c'est important, non ?
Soyons heureux. Alors, je ne vais pas dire aimons-nous les uns les autres parce que ça serait un peu galvaudé, mais je ne suis pas loin de ça quand même, quoi, parce que le moteur de nos vies est, pour moi, et doit rester l'amour.
Et oui, l'amour pour soi, l'amour pour les autres, l'amour
exactement.
Universel.
Sous toutes ses formes.
C'est le mieux pour tout le monde, c'est ce qu'on peut souhaiter, évidemment. Jean-Luc, c'est déjà la fin du voyage que l'homme heureux que vous êtes nous a proposé en nous présentant votre parcours, autant qu'en l'illustrant musicalement et de très belle manière, je dois le dire, parce que c'était à la fois avec des touches de sérieux, des touches de fantaisie et une grande diversité dans le choix de vos chansons. Oui, Jean-Luc, c'est déjà la fin, c'est déjà l'heure de nous quitter. Merci Jean-Luc, merci beaucoup de votre venue, merci d'avoir totalement adhéré au principe de l'émission que j'ai le plaisir et l'honneur d'animer. Dites-moi ce que vous écoutez, je vous dirai qui vous êtes. C'est ça le principe de l'émission dont je parle. Et en modifiant un peu la formule, on pourrait arriver facilement à « dites-nous ce que vous écoutez, vous nous direz qui vous êtes ». Jean-Luc, merci d'avoir joué le jeu, parce que c'est peut-être pas aussi évident qu'il y paraît, si ?
Alors, c'est tout d'abord, merci mon cher Stéphane de votre invitation, et puis merci à Jean-Marc pour la technique. J'espère que les auditrices et les auditeurs ont passé un aussi agréable moment que moi. Car je dois le dire, je suis venu ici sans a priori, mais en me disant, ça va peut-être être long tout ça. Et bon, finalement, j'ai passé un excellent moment, et je m'aperçois que, à mon corps défendant, si j'ose dire, je me suis dévoilé pendant cette grande heure de
et parfois on se dévoile plus qu'on ne l'aurait pensé, n'est-ce pas ?
Et je pense que je me suis dévoilé plus que je ne l'aurais pensé, mais je ne regrette rien.
Non, rien de rien, je ne regrette rien. Mais c'est aussi une preuve de confiance. Mais merci et pour les auditeurs d'abord.
Merci beaucoup à tous.
Merci de
j'espère
votre
que chacun a passé un bon moment.
Merci de votre venue, Jean-Luc. Merci d'avoir adhéré donc à ce principe de l'émission. Et j'espère que vous aussi, hein, mais vous le disiez, que vous avez passé un très bon moment. Je ne doute pas que les auditrices et les auditeurs les partagent avec le même plaisir et qu'elles aient apprécié vos choix de chansons. À vous qui nous écoutez, merci. Merci de votre attention, merci de votre fidélité. Merci aussi des nombreux témoignages adressés à RDC qui expriment une satisfaction à suivre l'émission Un moment avec sur 93.4 et 92.5. Je ne veux pas oublier de remercier Jean-Marc pour le savoir-faire technique qu'il s'est déployé, gage de confort de réception pour les auditrices et aide pour l'animation de cette émission que j'ai le plaisir de conduire. Et c'est aussi grâce à Jean-Marc que le podcast sera disponible sans doute dès lundi prochain sur le site de RDC. Bravo encore aux personnes lauréates des Jeux du jour, bravo Marie-Claude, bravo Pierre. Bientôt vous recevrez un CD, un DVD ou un DVD et vous serez invité quand vous le voudrez à une prochaine émission de la série Un moment avec. Aujourd'hui c'était avec Jean-Luc Excusso. Un petit clin d'œil à Myriam, bien sûr, salut là pour nous. Jean-Luc, vous nous avez régalé des chansons choisies pour l'émission de ce matin, jeudi 15 février 2024. Encore merci. Et puis je reviens sur le titre, Myriam a fait un beau cadeau à son homme heureux. Jean-Luc, s'il vous plaît, saluez-la et remerciez-la pour nous de vive voix dès que possible. Le mois prochain, c'est Célia Hélion qui sera notre invitée. Qui est-elle ? Que fait-elle ? En chanson, avec les chansons de son choix, elle nous dira tout de son parcours le jeudi 14 mars. Tout ou presque le 14 mars, même heure, même fréquence, 93.4, 92.5. Sur les ondes de RDC, l'émission Un moment avec Célia Hélion sera sans doute des plus agréables, comme celle que nous venons de vivre, de partager avec Jean-Luc Excusso. Au revoir Jean-Luc.
Au revoir.
Au revoir Jean-Marc.
Et merci.
Et merci mille fois. Et j'espère à très bientôt pour un nouveau moment avec les auditrices et les auditeurs. D'ici là, à toutes et à tous, une belle écoute de RDC. Jean-Marc, tu peux envoyer le générique parce que tu sais quoi ? Un moment avec sur RDC. Pour aujourd'hui, c'est la fin.